Alors maintenant, nous passons à la discussion. Je vais passer la parole à la salle. Je me suis demandé si Didier croyait que le masochiste existe. Hein ? Mais peut-être. Oui, vas-y.
Bien, ben je vais commencer par, si vous me permettez, vous remercier tous les trois d'avoir inauguré cette année en nous parlant d'amour, ce qui est sympathique, même si vous avez surtout parlé des tracas de l'amour. Alors, vis-à-vis de ces tracas de l'amour, il me semble que vous avez des positions, chacun, tous les trois, très différentes. Colette Solaire, il me semble, une discrète dépréciation. C'est pas la question de la phrase. Néanmoins, je te pose quand même une question que la phrase, à mon avis, appelle, en tout cas chez moi. Oui, mais alors, c'est quoi la preuve de l'amour ? Quant à José Mattei, toi, c'est un versant opposé. Il y a quand même quelque chose d'un peu d'espoir. L'amour plus digne, c'est pas la dépréciation, c'est non seulement l'amour sauvé, mais l'amour glorifié. Alors j'aimerais bien que tu développes ce point, parce qu'effectivement, c'est une formule qui m'a toujours, comme beaucoup j'imagine, intrigué, j'ai des éléments de réponse, mais est-ce que tu pourrais resserrer ce que tu entends, toi, par l'amour plus digne ? Simplement reprendre ça et le développer. Et évidemment, Hervé Castanet, tu m'as enlevé ma... Je l'ai faite. Je m'étais promis de pas... Didier, tu m'as enlevé la question de la bouche. Tu m'as enlevé la question de la bouche avec la fin de ton exposé. Effectivement, je voulais te demander où était l'amour dans tout ça. Mais je suppose que tu y as quand même un peu réfléchi. Donc je te repose la question. La perversion et l'amour, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, est-ce qu'on prend des questions autres ou on répond tout de suite ? Est-ce qu'il y a des questions urgentes qu'on prendrait tout de suite, ou on peut faire un premier tour de réponse, peut-être ? Alors, moi, je n'ai pas parlé de l'amour, pratiquement, parce que j'ai tâché de commenter la phrase que je m'étais donnée à commenter, selon la discipline que je recommande toujours. On lit chaque phrase autant que possible en restant dans la phrase. Ceci dit, quelle était ta question ? C'est quoi la preuve de l'amour ? C'est ça ta question ? Question qui ne se pose pas du tout dans ce texte. Non, pas du tout, mais tu permets. Lacan dit « l'amour fait signe », donc j'ai pas voulu entrer sur cette phrase parce que je crois que la prochaine fois, les collègues doivent la prendre, donc on en reparlera. En tout cas, je fais remarquer qu'il y a chez Lacan, et je pensais d'ailleurs le dire en écho à ce qu'avait dit José, il y a deux usages du terme d'amour chez Lacan. Il y a un usage où, ah mince, il oppose les registres, il les distingue, il ne les oppose pas, il les distingue. Il y a l'amour et la jouissance. Et on peut trouver des phrases où il dit l'amour, ça n'a rien à voir avec la jouissance, le sujet n'a rien à voir avec la jouissance. Et puis, il y a bien des cas où il parle de l'amour comme l'amour sexuel, c'est-à-dire que ça implique l'acte d'amour charnel et les sentiments éventuellement. Et quand, par exemple, il parle dans télévision des affaires d'amour, c'est de ça qu'il parle, celles qui vont du noble au tragique, etc. C'est pas l'amour sentiment, disons. Hein, c'est donc, et donc, dans tous les textes, on est toujours obligé de se poser la question, est-il en train, à la fin du séminaire encore, l'amour rencontre de deux savoirs inconscients, c'est pas du tout l'amour sexué. Hein, c'est pas du tout l'amour sexué, c'est l'amour de sujet à sujet. De sujet à sujet, ou alors c'est de sujet à sujet et de corps à corps. Voilà, ça glisse. Alors, je n'ai pas du tout tendance à le minimiser en ce sens, puisque je crois que l'amour plus digne, je connecte avec l'exposé de José, quand il parle de l'amour plus digne, c'est l'amour au sens sexuel. C'est l'amour au sens sexuel, à mon avis. Hein. C'est l'amour au sens sexuel et pas seulement au sens sentimental. Hein, donc, je trouvais que c'était bien, José et moi, votre itinéraire, d'être passé de Freud à, au fond du début de Freud, presque à la fin de Lacan, parce que ça permet de voir absolument, non seulement ces deux temps différents, mais ces deux problématiques totalement différentes en réalité. Freud, il cherche à s'expliquer les échecs de l'acte sexuel, hein, ce qui empêche d'arriver à la jouissance sexuelle.
Et à aimer aussi.
Oui, aussi à aimer, parce qu'il connecte un peu les deux. Alors que Lacan, à partir des années 70, parce que là les dates sont très importantes, hein, entre 67, 70 et 72, 13, ça bouge très vite, Lacan, il s'intéresse à la réussite de l'acte, à la jouissance dans l'acte réussi. Et c'est pas une invention de ma part, il le dit, la réussite de l'acte, c'est ce qui fait le ratage du rapport. Et donc, du coup, on comprend ce qu'est l'amour plus digne. Hein, l'amour plus digne, c'est l'amour sexué réussi et pas baratineur.
Voilà.
Hein, puisqu'il dit le bavardage, etc. En ce sens, ça permet en effet de se passer du rapport, c'est-à-dire voilà, de cesser de geindre sur les malheurs de l'amour.
Et on ne réussit l'acte sexuel qu'à se passer du rapport.
C'est-à-dire le fâcheux rapport, on s'en passe de toute façon, mais s'il n'y est pas, ce n'est pas une vertu de s'en passer. Ce n'est pas une vertu. Ce qu'il y a, c'est que parce que si vous voulez, il faut pas, à mon avis,
on s'en passe, mais il y a des façons de s'en passer.
Oui. Il ne faut pas croire que il n'y a pas de rapport sexuel. Ça veut dire tout amour est malheureux. C'est pas ça que ça veut dire chez Lacan. C'est même pour ça que je suis très contente que vous ayez mis l'accent sur ce qu'il appelle l'amour plus digne. Il y a des possibilités d'un amour sexué. Ce n'est pas la béatitude dont on rêve pour l'au-delà, certes, mais qui sont, au fond, ce qui permet de supporter le non-rapport.
Voilà.
Hein? Oui. Oui. Donc, bon, on est d'accord alors.
Et qui permet effectivement de
faire lien avec l'autre dans une relation qui ne soit pas de revendication et de
qui n'est pas que de jouissance et pas que d'amour.
Voilà. Voilà. Bon.
Alors. Il y a Didier qui, je ne sais plus quelle question il vous a posé, mais vous devez savoir.
La place de l'amour dans le masochisme. Dans la perversion. Moi, là, je te répondrai sur le masochisme, parce que ce n'est pas la même chose, par exemple, chez le sadique. Chez le sadique, je pense. Parce que le sadique veut que le partenaire jouisse sans libido, me semble-t-il.
Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je... Sans libido.
Sans libido, ça veut dire que le sadique veut bien faire souffrir son partenaire sans que ce partenaire-là ne retire aucun bénéfice dans le sens absolu de cette souffrance.
D'accord.
Il me semble que pour le masochiste, c'est pas du tout la même chose. Parce que le masochiste, lui, veut bien souffrir, mais pas sans libido. Je crois qu'il y a une grosse différence à ce niveau-là par rapport à la perversion en général dans cette redifférenciation qu'il y a entre le sadique et le masochiste. Ça veut dire que du côté du masochiste, dans l'absolu, il y aurait peut-être une place pour l'amour. C'est ce que j'ai voulu extraire de ce texte de Demusan. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui m'a posé la question?
Tu reprendras la question si tu veux.
Lui-même.
Bon, on va prendre d'autres questions dans la salle, si vous voulez. Attendez, prenez le micro. Là.
Je suis un peu perdue avec cette notion de l'autre qui, dans la logique du fantasme, à un certain moment, Lacan étonne tout le monde en disant « l'autre, c'est le corps », alors qu'on avait l'habitude que ce soit le lieu de l'autre, le lieu de signifiant.
On n'entend pas là ce que vous dites.
Je disais que j'étais un peu perdue avec cette notion d'autre, dont au départ on était habitué à ce qu'il soit le lieu du signifiant, et même nettoyé de toute jouissance, disait Lacan, je ne sais plus où, d'un autre à l'autre. Et puis, ce moment où, je crois que c'est dans la logique du fantasme, où Lacan dit, virage à 180 degrés, si je puis dire, l'autre, vous avez bien compris, c'est le corps. Autrement dit, le corps fait le lit de l'autre, le signifiant se... s'incarne, s'inscrit sur le corps, etc. Et alors là, je ne suis pas sûre de bien saisir ce qu'il veut dire, là, quand il dit le corps de l'autre qui, l'autre, le symbolise. Le symbolise. Cette symbolisation. Parce que, juste un petit saut encore par rapport à ce que vous disiez, c'était une cause de difficulté supplémentaire. Dans Radiophonie, en effet, quand il dit le corps du symbolique, je ne crois pas que c'est le corps au sens le corps vivant. Je crois que c'est le corps du symbolique au sens où on parle du corps des nombres, ou des corps au sens mathématique. Ce n'est pas du tout un corps vivant. Et puis le corps corpsifié, c'est le corps, comment on dit ça, mortifié. C'est le corps au sens du cadavre. Quand il dit le corps que le signifiant corpsifie. Alors, comment jouer avec tout ça si tu pouvais préciser, donc, puisque ça fait partie de la phrase que tu... Qu'est-ce qu'il appelle le...
Symboliser.
Voilà.
Ben, j'ai un peu répondu, déjà.
Oui, mais si tu peux répéter, ça me va.
Non, mais j'ai répondu brièvement, hein, parce que je craignais d'empiéter sur le temps. Donc, effectivement, c'était un peu rapide. Je pense que quand Lacan dit le corps qui symbolise l'autre, évidemment, ce n'est pas la même chose que de dire le corps lieu de l'autre. Hein, ou de dire le corps c'est l'autre, toutes ces formules-là, parce que j'ai plutôt l'idée que symboliser l'autre, il le prend au sens simple du mot symboliser. Il représente l'autre. Hein. Le corps lieu de l'autre, au fond, le texte majeur pour ça, c'est pas seulement celui-là, mais enfin, c'est les textes de 67 que vous avez évoqués, là. Ces textes, effectivement, où il parle, évoque le masochisme, puis il y a le texte de radiophonie. Et de l'un à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, il y a le corps... désert de jouissance, l'incorporation du symbolique produit le corps désert de jouissance, mais ça produit également le corps de la métonymie pulsionnelle. Ça vide le sac, en quelque sorte, de sa jouissance, mais il reste la jouissance accrochée aux zones érogènes et aux signifiants des pulsions partielles. Hein ? Et donc, quand Lacan dit, en effet, le corps du symbolique n'est que de s'incorporer, moi je crois que ça veut dire, c'est qu'en effet, le fait de l'incorporation constitue le symbolique en corps, c'est-à-dire en ensemble. En ensemble, parce que sinon, ça pourrait être dispersé, comme la langue n'est pas un ensemble. Hein ? Donc, le corps du symbolique, pour qu'on parle d'un corps du symbolique, c'est une sorte de c'est pas une métaphore, mais presque, d'un passage de ce qui serait une multiplicité signifiante à un ensemble signifiant. Donc, en ce sens, l'incorporation du symbolique produit le corps, le symbolique comme corps. Comme on dit, le corps des nombres. Hein, ouais. Tu as raison là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un énorme problème sur ce point. En tout cas, il me semble que la phrase de encore, ce n'est pas ça qui occupe Lacan. Hein. Dans la phrase de encore, sa question, c'est vraiment d'arriver à spécifier ce qu'est la jouissance prise à l'acte sexuel, dans corps à corps sexuel. Il me semble que c'est ça vraiment la question ici. Alors ça laisse l'amour en marge, puisque c'est pas le signe de l'amour. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir là sur l'amour, de toute façon. Alors, autre. Détends. Hein? Allez-y.
Oui, par rapport à votre question, il y a la référence à radiophonie, comme Colette disait, mais l'autre référence sur le désert de la jouissance, c'est le texte de 1967, oui. Qui est dans le 6-17 numéro 1, oui. De la psychanalyse dans ses rapports à la réalité. Oui. Donc c'est un texte qui fait corps, c'est le cas de dire, avec radiophonie, pour la définition de l'autre comme désert de jouissance et du corps.
L'expression est dans ce texte. Alors c'est une question à José et Colette à propos de... autour de la question de l'amour plus digne. Parce que José, tu nous as donné une définition de l'amour avant d'arriver à ce passage. Donc, alors j'ai essayé de retrouver la définition exacte qui dit non dans ton texte, c'était « je te demande de refuser ce que je te propose parce que ce n'est pas ça. » Ce que je t'offre, voilà. Donc ça, c'est la formule pour l'amour, disons, tout venant. Non, mais l'amour, avant d'arriver au statut d'une dignité plus élevée.
Oui.
Donc, justement, là, je suis en train de formuler une réponse à ce qui serait ma question. Est-ce que l'amour pudique, est-ce que cette définition de l'amour après correspondrait encore avec la définition d'un amour pudique? Enfin, la question c'est comment l'amour pudique vient à modifier ou pas cette définition de l'amour qu'il donne, qui tourne à la, bon, à la fois sur la question du manque, sur la question de l'objet, puisque est-ce que ça modifie ou pas? Moi, j'aurais tendance à penser que oui, parce que...
Alors,
j'ai tendance à penser que oui, mais je n'arriverai pas à la formuler comme ça, parce que je n'ai pas les textes en tête, mais je pense qu'on devrait peut-être arriver à affiner ou à la transformer pour pouvoir la faire rentrer dans quelque chose qui serait plus digne. Sinon, quelle serait la différence, enfin, comment on pourrait marquer la différence entre ce que j'ai appelé l'amour tout venant qui correspond à la définition qu'il donne, de ce qu'il appelle un amour plus digne? Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui les démarque.
Moi, je vous donnerai une autre formule de l'amour plus digne, alors que vous me suggérez, hein, j'ai jamais pensé à ça avant. Je dirais, la formule de l'amour plus digne pourrait être « Je te demande d'accepter ce que je te prends. » Pas ce que je te donne, ce que je te prends. Puisque quand il parle de l'amour plus digne, si je ne me trompe pas en pensant que c'est l'amour sexué, hein, celui justement qui peut... permettre de supporter le non-rapport à cause de ses bénéfices. Bon. Effectivement, le bénéfice de cet amour-là, c'est quand même aussi, outre l'amour comme sentiment, c'est la jouissance. C'est la jouissance. Donc, la jouissance qu'on prend dans le rapport à l'autre. Bon. Donc, ça n'est pas du tout une offre. C'est pas l'amour comme offre, c'est plutôt l'amour comme je prends. D'ailleurs, là, il y aurait tout un chapitre à développer, même sur l'amour-sentiment.
Est-ce qu'on le prend vraiment à l'autre?
Non, ce serait forcé, mais c'était pour trouver une formule qui...
Quand même avec soi-même.
Oui, on le prend pas à l'autre. Non, mais l'autre se prête quand même. Donc. Oui, bien sûr, oui.
Enfin, ça s'articule avec, il me semble, avec. Sur les textes antérieurs où il parlait de la position du névrosé, qui disait que le névrosé refusait de servir à la jouissance de l'autre. Donc là, effectivement, là, accepter de servir à la jouissance de l'autre, ça revient à redire sous une autre forme ce que vous proposez, c'est-à-dire accepter que l'autre vous prenne cette jouissance, même si c'est par votre intermédiaire, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Quand Lacan dit ça à la fin de Subversion, il n'est pas en train de parler de la jouissance du coït, je crois. Il est en train de parler, du fantasme en fait, du névrosé. Qui s'imagine être l'objet et qui refuse d'être l'objet, il me semble. Hein. Donc c'est pas, c'est justement, j'insiste là-dessus, le moment où Lacan a commencé à s'intéresser et à essayer de répondre à la question de la jouissance proprement sexuelle, parce qu'il y a énormément de textes. Qui précède et où il parle de la jouissance pulsionnelle. C'est la jouissance pulsionnelle. Bon. Et le moment où il commence à poser comme problème la jouissance sexuelle, c'est solidaire de son « il n'y a pas de rapport sexuel ». Il n'y a pas de rapport sexuel, mais il y a une jouissance sexuelle. Et donc, il se demande qu'est-ce que c'est, hein, qui supplée à l'absence du rapport, en quelque sorte. Et ce n'est pas le ratage. c'est justement pas le ratage, c'est la réussite qui supplée, et d'où ça sort et d'où ça vient. Et ça, c'est une question que Lacan, dans la psychanalyse, est seul à se poser. Freud ne se l'est absolument pas posé. Et Freud, oui, c'est dans ses textes qu'on commente à partir de encore à peu près. Alors, ça finit par le conduire, effectivement. Et c'est à peu près même époque que la note italienne, à dire « vous jouissez de votre inconscient, hein, même au lit ». Donc du coup, on ne peut pas vraiment dire « ça n'est pas ça ». Ça n'est pas ça. Parce que c'est autant ça que la jouissance du symptôme est ça. Ça n'est pas ça... Le ça n'est pas ça, il fonctionne dans le registre de l'aspiration au rapport, de l'aspiration à la rencontre des jouissances. Alors là, effectivement, il y a un ça n'est pas ça, la jouissance qu'il ne faudrait pas pour qu'il y ait le rapport, c'est tous ces développements. Mais à partir du moment où il définit la jouissance, même celle de la relation sexuelle, comme une jouissance symptôme dans laquelle le sujet jouit, pas du signifiant en général, pas du corps du symbolique en général, mais de quelques éléments de son inconscient, de sa langue, de sa la-langue, on peut dire que pour lui, c'est ça. C'est ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je disais, il y a sûrement un moment où il faut lever le ce n'est pas ça qui est pris dans un dialogue. Le ça n'est pas ça, c'est dans un dialogue ou une attente. Ou, enfin, c'est mal formulé peut-être, mais...
C'est un éclaircissement que je voudrais, parce que, mais pas, ça s'adresse à Didier. Qu'est-ce que, quand la leçon du pervers, ma question c'est, la leçon du pervers, finalement, parce que, bon, tu l'as dit, mais en même temps, c'est vrai que j'aimerais bien une précision. À quoi elle sert dans le débat, la leçon du pervers, hein? À quoi sert-elle
dans notre discussion?
Oui, enfin dans le débat sur la phrase qui est citée en référence, hein? C'est-à-dire parce que j'ai eu le sentiment que tu donnais cet exemple pour appuyer quelque chose. C'était pas pour... j'ai peut-être raté, mais bon, voilà. J'aimerais bien une précision là-dessus.
Tout à fait.
Je crois que ce que je voulais illustrer, je l'ai dit peut-être pas suffisamment clairement, c'est par rapport à la simulation. À la simulation, parce qu'il y a deux exemples, à mon avis,
pour le masochiste,
mais il y a deux exemples possibles par rapport à ça, pour illustrer les rapports entre vérité et satisfaction. C'est la névrose obsessionnelle et c'est le masochisme. La névrose, pour le névrosé obsessionnel, il fait des contorsions pour essayer de montrer qu'il peut tromper la vérité tout le temps avant de faire une analyse. On peut espérer qu'après les choses ont pris un autre éclaircissement. Tandis que le masochiste, lui, par rapport à cette vérité, à cette vérité-là, il reste toujours, toujours dans la simulation. Il me semble qu'il y a quelque chose de ce côté-là sur les rapports entre vérité et satisfaction par rapport à la question de la simulation sur un névrosé, peut-être avant qu'il fasse une analyse et après, et la question du masochisme. Parce que la question du masochisme, Lacan l'a utilisé pour ça, pour montrer cette impasse par rapport à la vérité du côté du masochisme.
Oui.
Oui.
Moi, je n'aurais pas pensé à l'introduire. C'est Didier Castanet qui l'a introduit, mais je vois bien. Ça a quelque chose à faire dans la question, la leçon du pervers. Alors je passais en revue les diverses perversions. Enfin, c'est surtout la perversion masochiste ou sadique qui sont lisibles. Enfin, ça s'appliquerait aussi bien au voyeurisme, je crois. Au fond, c'est une réponse au non-rapport sexuel autre que l'amour plus digne. Autre que l'amour, l'amour sexué réussi. Bon. Et c'est une solution qui consiste à éviter tout simplement les impasses de l'acte sexuel, en réalité. Donc c'est une solution d'une certaine façon. Il y en a peut-être.
Du côté de la simulation.
Pour le masochiste, oui, il y a une simulation masochiste. Il y a beaucoup de textes de Lacan. Il est très Lacan. Je me suis souvent demandé pourquoi il est très insistant là-dessus. Hein. Masochiste, c'est un petit humoriste, un rigolo, c'est un bluffeur.
C'est un malin.
C'est un malin.
Tout ce cher masoch, c'est un con.
Oui, ça n'empêche pas d'être con en plus. Mais même s'il n'était pas con, ce sont effectivement des pratiques de corps qui court-circuitent l'acte sexuel réussi, comme Lacan dit. Et donc là, elles prennent un sens. Hein ? Oui. Oui. Ça a la même fonction que l'abstinence, par exemple. J'avais parlé de ça à un moment. Les sexless, les gens qui évitent le sexe. On peut très bien vivre sans le sexe. Hein. Ça a la même fonction. C'est l'évitement du point d'impasse du rapport entre les sexes. Une solution possible, donc non répréhensible dès lors qu'elle est possible. On n'a rien à redire là-dessus. Il me semble. C'est comme ça que je vois la perversion entrer dans l'affaire, quoi.
José, j'aimerais bien que tu nous précises un petit peu où tu as trouvé ces références où Lacan dit qu'il ne faut pas se mêler de la chose, il ne faut pas avoir d'idées, il faut laisser dire, finalement. Hein. Alors, je cherchais où c'était.
Dans la lettre aux Italiens.
Ah, dans la lettre aux Italiens.
Oui, en fait, non.
Oh non. Enfin, j'ai jamais lu ça, mais j'ai peut-être pas lu bien.
Moi, je l'ai lu, mais pas dans la lettre aux Italiens.
Oui, c'est ça. Je me demande où c'est, alors, parce que vraiment, je ne sais pas.
Bon, il dit déjà.
C'est ce que tu as dit, hein. J'ai pas mal entendu.
Trouvez-moi un analyste de cette taille qui brancherait le truc sur autre chose que sur un organon ébauché. Un organon,
c'est ce qu'on...
Ça fait référence à Aristote, mais c'est comme un guide pour s'occuper, disons, des affaires de l'amour, des passions.
Les normes, ce serait les normes. Normes,
voilà. Ouais. Donc je l'entendais comme...
C'est l'IPA.
Voilà. Donc je l'entendais comme...
Ah oui, voilà. C'est ça que tu as développé après.
Voilà. Je l'ai compris comme ça.
D'accord.
Qui brancherait le truc de ce fâcheux rapport, autre chose que sur... Hein.
Ça serait écouter ce fameux rapport sans arrêt, quoi.
Oui, en tout cas...
ce qui dirait rien.
Écouter...
se préoccuper.
Plaintes réitérées ou essayer de répondre pour, oui. Mais pour une organisation...
L'oblativité de Bouvet. L'oblativité de Bouvet que Lacan a tellement critiqué, c'était ça, c'était brancher la question du non-rapport, plutôt suppléer au non-rapport par une sorte de rapport idéalisé. Et ça a traversé, ça vient d'Abraham, hein. Ça commence avec Abraham, l'objet total à partir des pulsions partielles. Mais il y a des passages de Lacan où beaucoup plus moins théoriquement que dans la phrase que José cite à juste terme, il dit qu'il a beau s'évertuer à dire aux analystes « laissez-les se débrouiller », il a cette expression « laissez-les se débrouiller », je ne sais plus où c'est, hein. Mais il n'y a rien à faire, ça démange, il faut qu'il s'en occupe, il voudrait arranger les choses.
De l'amour. Alors quand même, on peut penser qu'entre les tracas de l'amour et des plaintes de nos analysants au début, et puis l'amour plus digne, on aurait envie, mais c'est peut-être un mirage, que l'analyse porte à ça, justement. Ben, c'est pas sûr. On peut l'espérer.
Faire l'amour.
Mais justement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est l'impact de l'analyse sur ces questions d'amour ?
Moi, donnez votre idée.
J'ai pas dit le début, mais en fait, il me semble que c'est oui, ça pourrait être le parcours d'une analyse, rendre l'amour plus digne, par exemple, quelque chose. Enfin, oui, quelque chose qui fait quand même un peu moins souffrir, un peu moins, qui est pas ravageant. Hein, qui s'arrête de... Marc... Bon...
Non mais... qu'est-ce que c'est l'amour pas digne ? Demandons ça, puisqu'il parle d'un amour plus digne.
Alors, il parle aussi d'un analyste.
Qu'est-ce qu'il a en tête quand il... Implicitement, ça désigne un amour moins digne. Et ils nous disent que c'est l'amour moins digne. C'est l'amour qui se caractérise par le foisonnement de bavardage. Alors ça, si l'analyse est capable d'obtenir un résultat, c'est bien celui-là quand même. Je ne dis pas qu'elle l'obtient dans tous les cas, mais c'est possible. C'est-à-dire que quand même, le sujet mesure ce que c'est que le bavardage, mesure la vanité d'un certain discours, et donc finit par en rabattre. Ça, voilà. Oui, l'analyse l'obtient, évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle produit des amours idéales, bien entendu. Il faut se méfier de tout ce qui serait là une idéalisation. On reviendrait à une norme. Sinon, on reviendrait à une norme. Et là, il n'y a pas de notion de norme. Il y a une notion de laisser tomber tout le discours de la pseudo-vérité. De la pseudo-vérité. Il y a une question tout au fond, c'est si vous voulez faire passer le micro tout au fond. Si quelqu'un... Et puis une question là à gauche. Carlos, levez-vous pour avancer parce que...
Non, c'est juste une petite... remarque en fait concernant la discussion, c'est que Lacan dit très clairement qu'une analyse doit permettre en fait à un sujet de baiser sa chacune. Et ça, c'est justement une indication. Je ne me souviens pas exactement où est-ce qu'il le dit.
Il doit permettre.
Je crois qu'il le dit.
Il a dit que ça arrivait, que ça permettait. Ouais.
Voilà, bon.
Chacun de baiser sa chacune.
Mais en tout cas, ça va dans le sens de, justement de ce que vous indiquiez. En fait, hein, c'est comme une définition de l'amour dans ce sens-là. Voilà.
Oui, c'est vrai. Oui. Donc, il y a une question. Parlez fort. Mais il y a un enregistrement. Il faut parler dans le micro.
C'est pour revenir à la fin de votre exposé, Colette, quand vous dites que la métaphore paternelle est-elle une condition de la sexualité? Donc j'aurais envie de demander, quand il n'y a pas de métaphore paternelle, qu'est-ce que devient la question? Et à la limite, en entendant l'exposé de Didier Castanet, je me demandais si, effectivement, dans la psychose, l'existence de traits, enfin ce qu'on peut appeler traits pervers ou de phénomènes pervers, justement, était un élément de réponse à ça.
Ben, je ne vais pas répondre à votre question parce que ben, j'y répondrai, hein, mais ailleurs, parce que ça demanderait des développements un peu précis. Hein, des développements un peu précis. Je sais que il y a des thèses qui courent et qui parlent de suppléance à la psychose par la perversion. Suppléance perverse à la psychose. Premièrement, je ne suis pas sûre qu'il y a plus de pratiques perverses chez les psychotiques que chez d'autres, personnellement. Hein, on n'a pas de statistiques là-dessus. En psychanalyse, on ne peut pas parler au niveau statistique. Mais je ne vois pas en quoi ce serait une suppléance. On trouve des cas de psychose qui ont des pratiques perverses. Je vois pas en quoi ce serait une suppléance. C'est une manifestation plutôt du problème du non-rapport, qui bien sûr se trouve tout aussi bien pour la psychose. Donc cette question est plus complexe, je trouve, qu'on ne le dit. Mais surtout, je voudrais répondre à la question par rapport à la métaphore. Mais ailleurs.
Je vais apporter un élément supplémentaire qui a été un élément de doute lorsque j'ai relu, lorsque je l'avais lu il y a très très longtemps, ce cas de Demusan. Mais il y a une chose qui m'a accroché, je n'ai pas parlé ce soir là, c'est que ça va dans le sens de votre question, c'est que ce masochiste là, de peur d'ennui médico-légal, avait reculé devant le fait de se sectionner la verge.
Oui, ce drôle de pervers, hein. Très drôle de pervers.
Je ne vous le fais pas dire.
Oui, je ne sais pas. Alors écoutez, je crois que peut-être on est au bout, à moins qu'il y ait une main qui se lève. Je vous invite à venir boire un verre pour ceux qui ont encore de l'énergie.
Effectivement, c'est la question de je pense que ça s'appelle la vôtre, ça va dans le sang.
Oui.
Je suis pas sûr que ce soit perdu.
Je ne sais pas pourquoi il vous a passionné, ce cas, je n'ai pas compris. Pourquoi ce cas vous a retenu?
Parce que je voulais.
Ah, c'est pas un reproche, hein? Non.